Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Il y a 150 ans exactement, les ouvrières, ouvriers, artisans de Paris se soulevaient dans un contexte de guerre franco-prussienne. Ils se soulevaient à la fois contre l'invasion étrangère, mais aussi contre leur propre gouvernement, le gouvernement d'Adolphe Thiers, de la toute jeune Troisième République. C'est la Commune de Paris. Et aujourd'hui, pour en discuter à l'occasion du 150e anniversaire de l'événement, je suis en présence de Stathis Kouvelakis. Vous êtes philosophe, spécialiste de la pensée de Marx, du marxisme, de la théorie critique. Et Ludivine Bantini, vous êtes historienne à l'Université de Rouen, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux, des épisodes insurrectionnels et révolutionnaires. Et je vous ai réunis sur ce plateau car vous venez tous les deux de produire, alors chacun de votre côté, un ouvrage consacré à la Commune de Paris avec à chaque fois un angle particulier. Je vais dire quelques mots rapidement pour les présenter. Le vôtre, Stathis Kouvelakis, y paraît aux éditions sociales. C'est une compilation de textes de Marx et Engels sur la Commune de Paris, de textes que vous avez sélectionnés et retraduits pour certains, de textes parfois connus, d'autres beaucoup moins. Et ils sont introduits par une très longue introduction, presque 150 pages, qui constitue presque un livre à elle entière, qui essaye de remettre les analyses de Marx et Engels dans le contexte de l'époque, parce que voilà, c'est des analyses qui sont contemporaines de la Commune, et en même temps de confronter ces analyses qui ont été produites à chaude, qui sont des analyses militantes, on peut dire, à des analyses qui se veulent peut-être plus froides, plus distanciées, qui ont été faites plus tard par des historiens et des historiennes à propos de la Commune de Paris. Et vous, Ludivine Bantini, votre livre paraît aux éditions de La Découverte. Il s'intitule « La Commune au présent, une correspondance par-delà le temps ». Il s'agit d'une série de lettres, je n'ai pas compté combien il y en avait, peut-être 30 ou 40, à des héroïnes et des héros, parfois connus comme Louise Michel, parfois des inconnus et des anonymes, en tout cas qui ont pour point commun de toutes et tous avoir participé à la Commune de Paris. Et dans un jeu comme ça d'aller-retour, entrelacement des temps entre notre présent, le présent 2021, le confinement, les gilets jaunes, Emmanuel Macron. Vous vous adressez voilà, depuis le présent à la Commune de Paris. Et justement, c'est peut-être ça le point commun entre vos deux livres, c'est que ce n'est pas des livres qui muséifie, je ne sais pas si le terme existe, la Commune, en tout cas, ce n'est pas des livres qui enferment cet événement voilà, dans un passé lointain qu'on se contenterait de célébrer parce que ça fait partie des rites dans le mouvement ouvrier. Non, c'est vraiment des livres qui insistent sur le fait que la Commune est vivante, la Commune nous parle, la Commune reste d'une actualité brûlante aujourd'hui, et c'est justement la première question que j'ai envie de vous poser à vous deux. En quoi est-ce que cet événement qui a été décisif et fondateur pour le mouvement ouvrier et d'ailleurs le mouvement féministe et tout un tas de luttes en fait d'émancipation, en quoi est-ce que cet événement insurrectionnel, il reste pour vous aujourd'hui une source d'inspiration pour les luttes du temps présent ? Alors je ne sais pas laquelle souhaite commencer, question un peu massive, mais voilà, sur l'actualité de la Commune. Vous ne faites pas trop d'honneur, je vous en prie. Bon, Ludivine, comme votre livre s'intitule « La Commune au présent », on va peut-être…
Merci beaucoup, merci de cette invitation et de cette présentation. C'est vrai que dans ce livre, l'idée c'était de se plonger vraiment dans les archives de la Commune, hein, de faire ressurgir les documents, les sources de cette époque, hein, qui sont extrêmement foisonnants et qui permettent en effet de retrouver des femmes et des hommes, aussi bien, comme vous l'avez souligné, celles et ceux qui ont marqué de leur empreinte l'histoire notamment du mouvement révolutionnaire, du mouvement ouvrier, mais aussi des femmes et des hommes dont les vies étaient plus ordinaires, qui n'étaient pas entièrement consacrées notamment au militantisme, à l'engagement politique, mais qu'il s'agissait aussi de montrer dans la densité et l'intensité de leur engagement. Et il me semble que c'est déjà une première réponse à cette question fondamentale que vous soulevez, c'est-à-dire montrer que des hommes et des femmes ordinaires dont le métier n'était précisément pas la politique, pouvaient prendre leur destin en main, se poser la question de la légitimité de la prise de parole populaire et tout simplement de la prise de pouvoir populaire. Et donc, on est face à un mouvement révolutionnaire, à une révolution absolument inédite, notamment par la composition sociale de celles et de ceux qui prennent le pouvoir et qui pose des enjeux, en effet, brûlants, parce qu'il m'a semblé en me plongeant et replongeant tout aussi bien donc dans ces archives que dans les textes de l'époque, hein, des textes théoriques, des textes politiques qu'on pourrait subsumer sous le terme de praxis, voilà, hein, c'est-à-dire un entremêlement de théorie et de pratique. Ce sont des textes fondamentaux qui nous parlent encore. Il me semble qu'ils sont très éloquents. Alors, de quoi nous parle-t-il et de quoi nous parlent les pratiques de cette révolution populaire? En premier lieu, peut-être de la démocratie. Qu'est-ce qu'une démocratie vraie? Qu'est-ce qu'une démocratie? Alors, à l'époque, ils ne disaient pas démocratie directe, mais en tout cas, la Commune a vraiment tenté de la pratiquer par l'articulation entre l'élection d'un conseil de la Commune au plus près des quartiers, des arrondissements, des liens de voisinage, donc élire des hommes qui sont des ouvriers, des artisans, des employés, des instituteurs, des artistes, des écrivains, des journalistes, mais qui sont proches de ceux qui leur donnent mandat. On pourra revenir sans doute avec Statis sur la question des mandats, puisqu'ils sont en effet des mandataires. Ils sont aussi jugés révocables. Donc ça pose ce premier enjeu d'une véritable république, parce qu'en fait, bien sûr, les communeuses et communeux sont très attachés à la république, mais pour eux, il s'agit que cette république soit sociale. Donc ça pose un deuxième enjeu sur le travail. Comment la démocratie est-elle conditionnée justement par la justice sociale et par une autre forme d'organisation du travail qui soit libérée du joug du capital, hein. Beaucoup en parlent sous la Commune, la tutelle du capital, il s'agit de s'en débarrasser par une autre organisation qui pose la question des coopératives de production, des coopératives aussi de consommation, des caisses de prévoyance, de la solidarité ouvrière et populaire. Et donc ce sont des éléments qui resurgissent aujourd'hui au travers des questions qui sont posées notamment par le communalisme. Ça pose un troisième enjeu, me semble-t-il, qui est la place des femmes. On pourra y revenir plus en détail, mais même si, par exemple, il y a des impensés, évidemment, de l'époque sur le droit de vote, par exemple, à aucun moment l'enjeu du droit de vote des femmes n'est soulevé, mais ça nous indique aussi que la chose politique passe par d'autres voies que la voie strictement électorale, hein, parce que les femmes sont très agissantes dans les clubs notamment, mais dans plein d'autres modalités justement d'expression populaire et d'expression à proprement parler politique. La question de l'éducation est peut-être un quatrième enjeu qui me semble absolument fondamental parce que c'est penser une toute autre école qu'une école d'ordre, une école de classe, une école autoritaire. Et donc les pédagogies dites émancipatrices aujourd'hui ou alternatives sont déjà réfléchies et mises en œuvre sous la Commune. Et puis, il y a peut-être un dernier enjeu, mais il y en aurait sans doute bien d'autres, hein, ça n'est pas du tout exhaustif, qui est celui de la culture en général et de l'art en particulier. Hein. Comment véritablement voir l'art, non pas uniquement accroché sur des cimaises de musée, non pas avec des artistes sur leur piédestal, mais dans un partage justement de l'art pour tous et toutes.
Vous dites communeux et communeuses, on entend souvent communard ou communarde, c'est une terminologie de cette différence, elle a une importance?
Alors, je ne veux pas du tout faire la police du vocabulaire, hein. Je comprends très très bien, et c'est le cas depuis des décennies d'historiographie, qu'on emploie le mot communard. En revanche, il s'agit de souligner simplement que ce mot-là, pour les contemporains et les protagonistes de la Commune, n'était pas employé. Il a pu l'être d'ailleurs. Chez certains survivants de la Commune, hein, qui ont réutilisé ce mot en quelque sorte par le fameux procédé du retournement du stigmate. Mais à l'origine et pendant la Commune et au moment de son extermination, hein, de son écrasement, c'est un terme qui est employé par les ennemis des femmes et des hommes de la Commune. Et ce suffixe en « art » qu'on retrouve dans tout un cortège de mots, les braillards, les géniards, les feignards, et puis évidemment les bagnards, les soulards, les soudards, enfin bref, on pourrait très longuement poursuivre ce cortège de discrédit, de ces mots très péjoratifs et très agressifs. Ce sont donc les mots des ennemis de la Commune. Et en citant et en m'adressant à l'une de ces communeuses, Pélagie d'Aubin, qui est une de ces inconnues, qui ne sont pas pour autant anonymes, puisqu'on peut retrouver leurs noms, leurs identités, leur parcours, leur vie, leur joie, leurs espoirs, Pélagie d'Aubin laisse notamment dans les archives cette phrase très fière et très déterminée, « Je suis communeuse, moi ». Donc c'est une archive que je reproduis d'ailleurs dans le livre.
Statis Kouvelakis, Ludivine Bantini disait trois grandes questions, peut-être plus évidemment, mais quand même d'abord et avant tout la démocratie, la vraie démocratie, le travail, la place des femmes. Est-ce que c'est les mêmes éléments, vous, que vous retenez pour le présent? Il y a aussi beaucoup dans le texte que vous avez produit la question de l'État, la question aussi de la stratégie révolutionnaire. Voilà, la commune, finalement, on y reviendra plus tard, mais elle a été écrasée dans le sang, massacrée. Elle est défaite, c'est une expérience défaite, donc on peut aussi réfléchir sur les causes de la défaite afin la prochaine fois peut-être de l'emporter. Quels éléments vous retenez avant tout de cet épisode ?
Oui, alors je précise tout d'abord, vous l'avez dit, c'est effectivement une anthologie de textes de Marx et d'Engels sur la Commune de Paris, mais il n'y a pas que dans ce volume. Hein. Il y a aussi des textes de la Commune de Paris, parce que je voudrais que la lectrice ou le lecteur puisse juger sur pièce hein, de ce qu'ils disent. Donc il y a un choix de textes et décrets les plus emblématiques de la Commune, mais aussi un choix de textes qui paraissent pour la plupart dans le journal officiel de la Commune, donc qui donnent un peu une idée du type de discours qui sous-tendait le mouvement communaliste. Il y a un choix de texte du mouvement des femmes, enfin de l'une de ses organisations principales, l'Union des femmes. Je ne l'ai pas choisi au hasard, c'est parce que sa fondatrice et sa principale animatrice était une proche de Marx, en fait, et une militante de l'Internationale, Elisabeth Dmitrieff. Et puis, il y a des textes aussi, dans la partie controverse, qui sont de contemporains de Marx et d'Engels. Certains d'entre eux sont des acteurs de la Commune, qui réfléchissent sur l'événement, et pas de la même façon, ou pas exactement de la même façon en tout cas, que Marx et Engels. Hein, une bonne partie d'entre eux, par la suite, deviendront, disons, des proches de Bakounine, ou des libertaires, voilà, ou des socialistes, qui sont peut-être un peu des socialistes marxistes, mais avec une sensibilité libertaire, comme William Morris, par exemple. Donc, j'ai voulu contextualiser, pas simplement au regard de l'histoire, mais aussi au regard des pensées, des discours qui structurent et encadrent l'événement à proprement parler. Alors, concernant la signification de l'événement et qui le rend encore actuel, moi je rejoins ce que Ludivine vient de dire, la Commune est l'événement fondateur du mouvement ouvrier et du mouvement révolutionnaire moderne. C'est-à-dire, c'est la première expérience de révolution sociale. Hein. Pas la première expérience révolutionnaire, à l'évidence, puisque on a avant la Révolution française, pour ne citer que celle-ci. Mais c'est la première fois où le mouvement ouvrier apparaît comme un acteur, il existe déjà, hein, mais comme un acteur qui n'est pas simplement capable de faire une jacquerie, comme l'insurrection de juin 1948, pas simplement de lancer des mouvements sociaux, des mouvements revendicatifs, mais comme représentant une classe qui prend le pouvoir, et pas n'importe où, dans la ville emblématique du XIXe siècle. Donc ça déclenche une onde de choc dont on a du mal à se représenter en fait la profondeur et l'ampleur. Hein. En France, évidemment, mais dans toute l'Europe. Hein. Il n'est pas exagéré de dire que la totalité des classes dominantes sont prises de panique devant ce qui est en train de se passer à Paris, pas dans un petit bourg, dans un petit lieu, dans une petite ville industrielle. Donc, cet événement fondateur signifie qu'à chaque fois que la question d'une révolution ou d'un épisode insurrectionnel suffisamment ample et profond qui remet en cause l'ordre social est à l'ordre du jour, eh bien, la Commune de Paris est à chaque fois redécouverte, réinventée, réappropriée. Et c'est ce qui fait son actualité aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas se raconter des histoires. Notre camp est aujourd'hui dans un état difficile, c'est vrai, mais en face, au pouvoir, c'est les Versaillais qui sont toujours au pouvoir. Hein. Donc, on commémore aujourd'hui, et on doit commémorer la Commune de Paris, comme on commémorait la Révolution française quand il y avait encore l'Ancien Régime. Hein. Voilà, hein, en France et dans le reste de l'Europe aussi. Donc c'est ça, je crois, qui doit être notre orientation pour aborder la Commune en restant fidèle à ce que l'événement lui-même a dégagé de vérité, finalement.
Mais en parlant de commémoration de la Commune, est-ce que justement cet épisode, dont vous vous rappelez bien qu'il s'agit d'une révolution, peut-être la première révolution ouvrière avec un pouvoir politique ouvrier, est-ce qu'aujourd'hui, cet événement, il n'a pas perdu de son tranchant? Est-ce qu'il n'est pas même devenu consensuel quand on voit, vous le rappelez tous les deux dans vos ouvrages, que Il y a, au début des années 2000, il me semble, le président du Sénat de droite à l'époque, Christian Poncelet, qui fait mettre une place comme ça, une plaque en hommage aux insurgés, que Jean Tiberi, le maire de Paris, de droite aussi, pareil, fait baptiser une place justement vers la butte aux Cailles, il me semble, la place de la Commune. Enfin, voilà, cet événement. Le Figaro aussi, dans un de vos deux livres, j'ai appris, proclame Louise Michel, personnalité d'électrice de l'année, de voir comment la droite a récupéré cet événement, et même de manière peut-être plus folklorique aussi, comment à gauche, aujourd'hui, on célèbre peut-être justement ça, l'aspect folklorique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on dépolitise l'événement, on lui enlève comme ça de son tranchant. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas perdu le tranchant de cet événement? Et si oui, comment aussi le restituer? Comment en revenir à la force subversive des communeux et des communeuses?
Oui, bon, comme tout événement... Saillant, la commune ne peut échapper à une pluralité d'appropriations dont certaines relèvent effectivement du registre avant tout dépolitisant, je dirais. Hein. Bon, on sait que Che Guevara est devenu une icône quasi publicitaire. Hein. Toute personne portant un t-shirt avec Che Guevara n'est pas pour autant ni même vaguement au courant des idées qui sont celles du Che Guevara. Bon, là, il y a une marque de vêtements, d'ailleurs, je crois, qui s'appelle Commune de Paris. C'est un symptôme parmi d'autres. Bon. Mais le capitalisme a cette incroyable capacité de pouvoir récupérer et recycler à peu près tout. Si on passe toutefois à un niveau plus politique, je crois que la Commune est un objet qui résiste quand même à son refroidissement, hein, c'est-à-dire les faits que vous mentionnez et que je mentionne aussi dans mon essai sont des cas assez isolés en fait. Hein. Il n'y a pas la Commune n'est pas intégrée véritablement dans le récit national. Elle est quasiment absente du cursus scolaire, par exemple, hein, ce qui est quand même un signe parmi d'autres. Et elle ne trouve pas véritablement sa place dans le récit national. Et on le voit aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Il y a très peu de choses du point de vue des commémorations d'État sur la commune de Paris. Quelqu'un comme Pierre Nora, qu'on peut considérer comme un historien idéologue du régime, a déclaré qu'il est d'accord pour commémorer Napoléon cette année, mais pas la commune de Paris. On a vu au Conseil de Paris la droite parisienne réagir vivement contre les commémorations que la ville de Paris prévoit pour le 150e anniversaire. Donc, c'est quand même remarquable que, contrairement à d'autres épisodes, celui-ci fait encore débat, est encore un objet controversé, je crois. Bon, ceci étant, la meilleure manière d'aborder ça, c'est tout simplement de se pencher sur la commune, sur ce qui s'est passé, sur les textes des communards, et aussi, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur les textes des adversaires de la commune. Hein. On apprend beaucoup de choses, et parfois, les adversaires de la commune sont plus lucides sur le sens de l'événement que les communards eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire, il y a, si vous voulez, quand on lit ce qui s'est passé, on se rend compte que la commune, et notamment à cause de sa fin tragique, hein, la violence sanguinaire incroyable qui s'est déclenchée contre elle, équivaut à une certaine perte d'innocence dans le mouvement révolutionnaire. Hein. Au début, il y a quand même beaucoup d'illusions sur le fait que tout ça va assez bien se passer. Hein. Il y a aussi des illusions sur le fait que, quelque part, le camp républicain, l'unité du camp républicain n'est pas complètement perdue. Il y a des gens qui essaient de trouver un compromis, d'ailleurs, même entre Versailles et Paris. Et la commune elle-même essaye de négocier dans un premier temps. Bon, tout ça, on se voit, va se heurter à un véritable mur, car en face, y compris de la part des républicains qui font partie du gouvernement Thiers, je précise d'ailleurs que la question du régime n'est pas réglée à l'époque. Hein. Thiers a conclu ce qu'on appelle parfois le pacte de Bordeaux, une sorte de pacte informel, mais qui laisse en suspens la question du régime, car la majorité de l'Assemblée qui a été élue aux élections de février est une majorité monarchiste et bonapartiste, pas républicaine, justement. Et l'un des principaux arguments de la commune et des communeuses est justement qu'il faut défendre la République contre cette assemblée réactionnaire et fondamentalement anti-républicaine. Mais ce que ces républicains-là perçoivent, c'est que c'est l'ordre social qui est mis en cause, car ils voient tout de suite que les gens qui prennent le pouvoir à Paris sont des gens qui veulent aller plus loin que simplement défendre un régime politique républicain ou relancer la guerre et la défense de la France contre la Prusse. Il y a autre chose qui est en jeu.
C'est qui, justement, ces gens qui prennent le pouvoir à Paris? Enfin, c'est quoi, là, en termes de composition sociale? Parce qu'on a dit, c'est le soulèvement du peuple, c'est le soulèvement des ouvriers et des ouvrières. Est-ce que c'est encore des artisans à l'époque? Est-ce qu'on est déjà dans l'industrialisation des ouvriers d'industrie? Quel est le profil, un petit peu? Est-ce qu'on peut parler des métiers, des professions, de ces acteurs et actrices tout simplement de la commune pour essayer de voir un petit peu à quoi ressemble leur vie, alors en temps normal, je veux dire, avant qu'ils se soulèvent pour essayer de donner un peu de chair là-dessus. Vous revenez beaucoup, vous, Ludivine Bantini, là-dessus?
Oui, et c'est vrai que pour aller dans le sens de l'échange que vous venez d'avoir au sujet tout simplement de cette mémoire de la commune, il y a cette idée de l'énerver. J'aime bien ce concept qui a été utilisé par Jacques Derrida pour dire, voilà, énerver au sens d'enlever les nerfs, c'est-à-dire précisément, par exemple, outre les éléments qu'a soulevé Statis à juste titre sur le fait que finalement on passe sous silence, on refuse d'en faire l'histoire ou de participer à cette commémoration, même si commémoration, c'est toujours compliqué parce que c'est parfois une autre manière de tuer la commune. Mais c'est l'idée, au fond, de lisser, de polisser l'événement, de le polir, de le réintégrer, par exemple, dans une vaste histoire républicaine qui enlèverait, justement, y compris la chair. Et donc, ça rejoint la question que vous posez à l'instant, la chair sociale et politique et les stratégies révolutionnaires qui sont déployées par les protagonistes de la commune. Donc, en effet, ce qui est très spectaculaire, c'est que on est face déjà à une situation de très haute conflictualité sociale avant mars 1871. Il y a quand même beaucoup de grèves tout au long des années 1867, 1870, en fait. Hein, la fin de l'Empire est marquée vraiment par cette intensité d'une lutte de classe et qui est pensée comme telle, et où notamment les sections de l'Internationale, hein, de l'Association internationale des travailleurs, sont quand même très présentes, agissantes dans le sens aussi de la coopération ouvrière, des solidarités ouvrières, à la fois dans ces luttes et dans ces grèves, mais aussi au-delà, hein, dans la perspective de ce qu'on appellerait aujourd'hui une auto-organisation pour l'affranchissement des travailleurs. C'est un terme qui revient énormément, cette centralité de l'affranchissement, on pourrait dire donc aussi l'émancipation, donc qui pose vraiment la question centrale du rapport au capital d'une part et au propriétaire de l'autre, entendu au sens large, mais aussi le propriétaire des logements, puisque c'est un autre enjeu, c'est voilà, pouvoir se loger décemment et ne plus dépendre de cette tutelle imposante et écrasante du propriétaire. Donc, sur la question plus précisément de la sociologie, il faut souligner en effet qu'on est dans une phase d'industrialisation accélérée, exacerbée sous le Second Empire, et que pour autant, alors la population de Paris qui est très populaire. Enfin, la composition sociologique de Paris, c'est vraiment une composition très populaire. Enfin, ce que je leur dis d'ailleurs à un moment dans le livre, c'est qu'ils ne se reconnaîtraient pas du tout dans le Paris actuel, évidemment. Donc, beaucoup d'ouvrières et d'ouvriers, de petits commerçants et d'artisans qui jouent aussi un rôle important dans la commune. Et puis, il y a des solidarités de quartier, des solidarités de voisinage. Pour autant, il ne faut pas imaginer l'ouvrier d'usine tel qu'on la projette, ce qui viendra plus tard dans le 19e siècle et plus encore au début du 20e siècle. Ce sont des ouvriers et qui sont souvent des métiers spécialisés, des métiers avec un grand savoir-faire, des relieurs, des orfèvres, etc. Aussi des métiers, les ouvrières du textile, hein, on a des passementières, on a toutes sortes de métiers d'ailleurs qu'on ne connaît plus forcément aujourd'hui, des culottières, des doreuses et doreurs, on a des métiers d'art et d'artisanat, mais aussi bien évidemment, il y a des couvreurs, des zingueurs, des métiers du bâtiment, hein, des ouvriers du bâtiment, etc. Donc, toutes sortes de petits métiers, avec cette particularité qu'on travaille surtout dans des fabriques, dans des ateliers, et qu'on pourra y revenir sur les enjeux stratégiques, sur les questions d'offensive révolutionnaire. Par exemple, il y a une grosse usine métallurgique qui est l'usine Caille. Les ouvriers sont très mobilisés sous la commune, mais la commune ne décide pas, par exemple, de son éventuelle expropriation. Hein, donc, c'est une des rares grosses usines de Paris, tout comme une usine textile qui est importante aussi, dont le nom nous est resté, Godillot, qui fabrique aussi une usine de maroquinerie, qui fabrique des chaussures, etc. Donc voilà, je pense d'ailleurs aux piqueuses de bottines, par exemple, parmi les ouvrières, on a parmi les communeuses mobilisées aussi des demoiselles de magasins, etc. C'est, toute cette sociologie à la fois composite est quand même très cohérente du point de vue de sa dimension d'ancrage populaire.
Et parmi ce peuple parisien, vous disiez, voilà, pour certains, certaines, des difficultés à payer les loyers. Tout le monde non plus ne mange pas à sa faim. J'essaye de comprendre par là les ressorts de ce soulèvement populaire. Voilà, pourquoi tout d'un coup, le 18 mars 1871, parce que ce n'est pas le déclic, l'événement déclencheur, en tout cas immédiat, ce n'est pas une question de conditions de vie, de loyer, de faim, c'est plutôt lié à des circonstances géopolitiques. Voilà, on est en pleine guerre franco-prussienne, il y a le gouvernement français qui, s'apprête à signer une armistice et à accepter la défaite. Et le peuple de Paris se soulève parce que lui, en fait, il est convaincu de pouvoir continuer de résister à l'invasion. Donc il y a comme un entremêlement de causes. J'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus. Il y a la guerre d'un côté. En même temps, il me semble comprendre qu'il y a des causes peut-être de l'ordre plus social, plus classiquement social. Comment est-ce que vous l'expliquez, ce soulèvement, cette...
Vous l'avez indiqué, Statis, il reviendra. Il y a une... En effet, une juxtaposition de causalités, comme souvent dans un mouvement révolutionnaire, dans une telle irruption. C'est vrai que c'est la guerre, le contexte de la guerre est tout à fait majeur. C'est une guerre que le peuple parisien, pas davantage que la population dans son ensemble, n'a souhaité. Hein. C'est une guerre qui a été décidée pour le prestige de l'Empire par Napoléon III, pour essayer de redorer son propre blason et sur une motivation qui est très, très anodine, de l'ordre de la succession dynastique, etc. Donc, le peuple lui-même ne se sent pas du tout concerné par cette guerre. Mais une fois qu'elle est enclenchée et que le peuple de Paris en subit des conséquences effrayantes, hein, parce que c'est le siège, les troupes prussiennes assiègent Paris, on a faim, en effet, à Paris. On a faim, c'est un hiver très rigoureux, hein, l'hiver 1870-1871. Donc il faut se représenter des femmes et des enfants, par exemple, qui, devant les boulangeries, dès 2, 3, 4 heures du matin, attendent l'ouverture de ces boulangeries où, en fait, on a un pain infect, tout est infect, la nourriture est infecte.
On mange du rat, exactement.
Pour les plus aisés, il y a une grande partie de la bourgeoisie, de toute façon, qui a fui Paris très tôt. Et ça va avoir des conséquences importantes quant aux décisions de la commune ensuite, hein, pour comprendre notamment que se pose l'enjeu de la réquisition à la fois des logements et des ateliers abandonnés par leurs propriétaires. Pour la population aisée, qui a quand même encore quelques moyens, on peut s'acheter la viande des animaux du jardin zoologique qui ont été abattus les uns après les autres. C'est pour vraiment mesurer. Ouais. C'est la misère, c'est le chômage, etc. Donc, en effet, il y a cet entremêlement de causalité. La méfiance à l'égard du gouvernement provisoire de la République mis en place par autoproclamation le 4 septembre 1870. Et la question de la mémoire populaire et la mémoire ouvrière est ici très prégnante parce que on se souvient quand même que c'est déjà un gouvernement autoproclamé républicain qui avait écrasé en juin 1848, Statis y a fait allusion tout à l'heure, l'insurrection ouvrière qui réclamait le droit au travail. Et cette mémoire-là, elle travaille, elle infuse. On se méfie en fait de ce gouvernement bourgeois qui est considéré comme tel. Et dès lors, on se pose aussi des questions sur cette République dite, représentative, qui est jugée justement comme une République profondément bourgeoise, et a fortiori quand les élections de février 1871 mettent au pouvoir une majorité monarchiste, et que le chef de l'exécutif est Adolphe Thiers, c'est-à-dire celui qui avait déjà été l'un des principaux ministres sous la monarchie, hein, sous la monarchie de Juillet, donc le règne de Louis-Philippe, et qui avait déjà été un massacreur de peuple, puisqu'il est à l'origine notamment du massacre de la révolte des Canuts lyonnais et aussi de la rue des Transdonnins à Paris. Donc on se souvient aussi de Thiers comme de celui qui déjà tenait des discours sur le peuple d'une condescendance écrasante, d'une condescendance de classe vraiment susceptible justement d'aller dans le sens de l'écrasement sanglant.
Je voudrais revenir sur deux éléments ici pour compléter ce qu'a dit Ludivine, avec lequel je suis d'accord. Le premier sur la composition sociale et politique d'ailleurs de la commune. Ludivine l'a dit, c'est un peuple travailleur, c'est un peuple ouvrier, pas au sens des ouvriers de la grande industrie, encore que ça commence. Les grandes fabriques commencent, Caille en est une par exemple, les usines Caille. Mais ce ne sont pas non plus des artisans des modes précapitalistes. C'est-à-dire on a souvent voulu faire de ces ouvriers de la commune des simples descendants des sans-culottes. Non. En réalité, Paris est une ville et l'économie parisienne est une économie capitaliste. Mais c'est une économie capitaliste qui n'est pas centrée sur la grande fabrique, mais effectivement sur une cascade en réalité de ce qu'on appellerait aujourd'hui de sous-traitance, très hiérarchisée, dans lesquelles les gens qui détiennent l'argent, les marchands, les fabricants, passent commande en fait à une cascade de sous-traitants avec des procédés qui sont étonnamment modernes. D'ailleurs, des historiens de l'économie étudient maintenant des modes alternatifs d'industrialisation qui courent depuis le 19e siècle, et l'économie parisienne en fournit un modèle, et qui s'étendent jusqu'à ce qu'on appelle, par exemple, la troisième Italie, le modèle italien de l'Italie du Nord, avec tout un système flexible, en quelque sorte, de production, qui est également une production assez spécialisée, avec souvent du travail assez qualifié, mais par un réseau de petites et moyennes entreprises. Donc, c'est des ouvriers qui, certes, pour la plupart d'entre eux, ne travaillent pas dans de grandes entreprises, mais ils font l'expérience déjà d'une dépossession dans leur travail des savoir-faire traditionnels et du pouvoir du capital. Et c'est ce qui alimente un mouvement ouvrier qui, contrairement d'ailleurs évidemment 1789, mais même à la première moitié du 19e siècle, atteint un certain niveau de développement et de maturité. La décennie qui précède la Commune est celle où le mouvement syndical parisien se structure. Donc ces chambres syndicales parisiennes sont déjà des organisations importantes, et la Commune va essayer de s'appuyer précisément sur elles dans ses projets de socialisation des moyens de production. Donc on n'est pas du tout dans l'horizon de la sans-culotterie ou de 89. On est dans quelque chose qui commence en 48, en effet, mais qui a depuis franchi, on va dire, au moins quelques étapes. La deuxième chose, c'est sur la guerre. Alors ça, il faut bien comprendre, et je crois que les textes de Marx et d'Engels nous permettent un peu de cerner de façon très lucide les enjeux, parce qu'ils analysent ça à distance, et d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'eux-mêmes sont des Allemands. Au début de la guerre, d'ailleurs, ils disent que c'est une guerre d'agression de la France contre la Prusse, donc que la Prusse est en droit de se défendre contre cette guerre d'agression. Leur position va s'inverser quand, après les défaites qui surviennent très rapidement des troupes françaises, c'est les troupes prussiennes qui envahissent la France. Et là, ils disent non, c'est maintenant la France, d'autant d'ailleurs que, effectivement, le régime s'effondre très rapidement le 4 septembre et que des républicains, certes bourgeois, mais enfin des républicains quand même, prennent le pouvoir à Paris. Ce qui se passe toutefois, c'est qu'avec la guerre, et ça il faut bien le comprendre, le peuple se retrouve en armes. Notamment la garde nationale, ou plutôt les gardes nationales. Dans toutes les villes de France, c'est les citoyens qui sont armés. Dans le cas d'une guerre, c'est comme ça que ça se passait. Ce n'était pas simplement l'armée régulière qui combattait, qui n'était pas du tout organisée d'ailleurs comme une armée strictement de conscrits. Il y avait aussi les gardes nationales. Donc la garde nationale parisienne en particulier, 300 000 hommes armés, suscite l'effroi justement des généraux bonapartistes et de la classe dominante qui savent très bien qu'ils ont tout à craindre de ce peuple travailleur en armes. Ce qui va conduire très rapidement, en fait avec l'effondrement de l'Empire, à un glissement, on va dire, défaitiste de ce gouvernement républicain qui ne prend pas dans sa majorité, Gambetta est minoritaire en réalité dans ses efforts d'organiser un effort de guerre, donc fait semblant en réalité de se défendre contre les Prussiens. Alors le commandant militaire de Paris, Trochu, en est un exemple caricatural. En réalité, ces gens-là préfèrent trouver un accord avec les Prussiens, même au prix de concessions très très lourdes, ils préfèrent la capitulation au risque d'un peuple en armes qui prenne le pouvoir et veut aller plus loin. C'est ça qui va d'ailleurs faire bouger Marx et Engels, qui comprennent justement l'importance pour les forces révolutionnaires de contrer cette position défaitiste de la bourgeoisie et d'imposer leur propre marque sur une guerre populaire de défense. Et c'est ça, évidemment, qui va nourrir ce patriotisme révolutionnaire des communards et leur opposition au gouvernement républicain qui accepte les conditions extrêmement humiliantes des préliminaires de l'armistice et puis après d'un traité au mois de mai, avec notamment la perte de l'Alsace-Lorraine, un tribut complètement exorbitant. Ils préfèrent accepter ça plutôt que de prendre le risque d'une révolution sociale. Les généraux bonapartistes ne s'en cachent absolument pas, d'ailleurs. Hein. Bazaine préfère capituler honteusement devant les Prussiens plutôt que de prendre le risque de voir ces Parisiens excités et armés se rebeller.
Donc là, c'est important ce que vous disiez, vous avez parlé de patriotisme révolutionnaire, parce que souvent on se dit la gauche, c'est l'internationalisme, mais c'est aussi dans certaines circonstances. Là, je crois que c'est vraiment les circonstances qui expliquent ça, mais il y a aussi quand même un ressort patriotique derrière.
Alors, moi je dirais que ça dépend de configurations singulières. Hein. La configuration de la commune, la remarque a été faite à plusieurs reprises, à juste titre d'ailleurs, c'est plutôt celle qui rappelle en France l'étrange défaite de 1940. Hein. Souvenons-nous du mot d'ordre de la classe dominante française de l'époque, plutôt Hitler que le Front populaire. Hein. Eh bien là, c'était plutôt Bismarck que la commune. D'ailleurs, Marx le dit. Et il s'appuie sur des éléments qui, après, ont été confirmés. Hein. Thiers, quand il s'adresse à Bismarck, il lui dit « En sang, je vous garantis de pouvoir rétablir l'ordre à Paris, car c'est de l'ordre social dont il est question. » Et Marx l'écrit dans la guerre civile en France, les gouvernements nationaux ne font qu'un contre le prolétariat. Donc, il y a des configurations dans lesquelles les classes dominantes préfèrent la défaite et une occupation étrangère face à un ennemi intérieur qu'elles jugent menaçant. Il y a d'autres configurations, comme 14-18, où elles se lancent dans des guerres impérialistes de conquête et envoient à la boucherie des millions de leurs citoyens. Donc il faut bien voir de quel moment et de quelle période on parle et que signifie nationalisme et patriotisme dans des conjonctures précises. Hein. Le sens peut varier du tout au tout.
Et d'ailleurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais avoir lu chez un de vous deux, que donc ça dure à peu près 2 mois à la Commune de Paris, tout se joue très vite, mais qu'à un moment donné, Thiers va négocier, donc le gouvernement d'Adolphe Thiers va négocier avec Bismarck que soient relâchés les prisonniers de guerre et certains réintégreront comme ça l'armée aux ordres de Versailles qui marchera sur la commune en mai pour l'écraser. Donc vraiment, voilà, une entente là, finalement, une entente des puissances pour écraser tout simplement l'insurrection populaire.
Thiers et les Prussiens sont officiellement neutres hein, et les communards sont très attentifs à ne pas ouvrir 2 fronts à la fois et donc ils ne font rien justement pour que les Prussiens se retournent contre la commune. Hein. Officiellement, les Prussiens considèrent que c'est une affaire franco-française, mais en réalité, on sait bien que le gouvernement de Thiers, comme je l'ai dit auparavant, qui négocie et qui est en contact permanent avec les Prussiens, se dit « c'est à nous, c'est notre job en quelque sorte de rétablir l'ordre à Paris, ne vous mêlez pas de ça, ne vous inquiétez pas ». On fera ça et on ira peut-être même plus loin que vous ne le pensez. Effectivement, c'est ce qui s'est produit pendant la semaine sanglante.
J'ajouterais juste un mot sur le fait que le patriotisme révolutionnaire et statiste a eu raison d'employer cette formulation, parce que là aussi, dans les manières d'énerver la commune, il y a des façons, par exemple, de dire, en fait, ce qui comptait chez les communeux et communeuses, ou les communards, c'était le patriotisme, oubliant ce faisant la dimension révolutionnaire et de révolution sociale qu'on a déjà mentionnée et sans doute sur laquelle on reviendra. Il me semble que ce n'est pas du tout incompatible avec l'internationalisme, et notamment l'internationalisme ouvrier, qui est très présent sous la commune et qui d'ailleurs va s'incarner, se matérialiser, se symboliser par notamment cette manière d'abattre la colonne Vendôme. C'est une des décisions symboliques, comme une métaphore précisément de la solidarité entre les peuples, puisque la colonne Vendôme, c'est un symbole napoléonien, celui des guerres napoléoniennes, des victoires françaises des armées de Napoléon, et c'est un symbole honni précisément parce qu'il désigne un écrasement des peuples, et donc Courbet, le peintre Gustave Courbet, mais bien d'autres, et le conseil de la commune entendent abattre cette colonne pour y ériger en lieu et place un monument qui traduisent justement cette solidarité internationaliste. Il faut aussi penser au nombre de protagonistes qui ne sont pas français, parmi lesquels, bien sûr, de grandes figures comme Léo Frankel, qui est un révolutionnaire hongrois, comme Dombrowski, qui est un révolutionnaire polonais. Quand on examine aussi les trajectoires de certains communeux, on est tout à fait fasciné et impressionné par cette solidarité internationaliste qui se matérialise par leurs voyages, leurs engagements dans des pays en révolution, dans les luttes émancipatrices ailleurs qu'en France. Donc voilà, il me semble qu'il y a une compatibilité. Et pour ce qui concerne la complexité du rapport entre la commune et les troupes désormais allemandes, après la proclamation de l'unité allemande, il faut quand même se rappeler qu'à un moment, le pouvoir de la République officielle, qui est en fait bien peu républicaine, entend vraiment affamer Paris. Entend vraiment affamer en coupant les vivres, en fermant en fait par un blocus Paris. Et c'est par la partie occupée par les Allemands que les vivres vont continuer d'arriver dans la capitale. Donc voilà, il y a un moment où en fait il y a une sorte de retournement de situation de toute façon dans le rapport de force qui s'établit entre Versailles, c'est-à-dire la ville où c'est installer le pouvoir, et puis les troupes allemandes.
Alors, vous l'avez déjà un petit peu abordé tous les deux, mais est-ce qu'on peut revenir plus longuement sur les réalisations à la fois sociales et politiques de la Commune de Paris? Parce que donc, vous avez mentionné comme ça au passage quelques premières mesures qui ont été prises dans l'urgence. En fait, les premières mesures qui sont instaurées au niveau social, c'est des mesures de première nécessité. Voilà, on gèle les loyers, on interdit les retenues sur salaire. On va interdire le travail de nuit des boulangers parce que c'était un problème aussi important à l'époque. Mais ces mesures-là, ce n'est pas l'abolition non plus de la propriété privée des moyens de production. Enfin, on n'est pas non plus, la commune n'a pas réalisé la société communiste. Donc, comment est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce qui autorise en fait à parler de révolution sociale, à dire qu'il y avait un contenu en germe, j'imagine, parce qu'il n'a pas été réalisé, mais il y avait un contenu, on était plus que dans une simple révolution politique, il y avait vraiment quelque chose de social, d'anticapitaliste dans la commune. Est-ce que c'est parce qu'il y a un degré aussi de politisation peut-être dans les textes, dans les aspirations, dans les doctrines aussi, toutes les idées politiques qui circulent à l'époque? Est-ce que cette aspiration à un au-delà du capitalisme, il est déjà là, il est déjà formulé? Voilà, comment est-ce que, sur la dimension sociale de la commune, à quoi est-ce qu'on la voit?
Bon, c'est un point qui est parfois, disons, soumis à discussion par certains historiens ou certaines interprétations. Ludivine y a déjà fait référence, qui veulent à tout prix faire rentrer la commune dans un récit lisse et à la faire réintégrer, à obtenir une sorte de reconnaissance par la continuité républicaine. Hein. Mmh. Donc cet aspect effectivement de révolution sociale est soit mis au second plan, soit nié. Bon. Il y a quand même un texte auquel il faut ici se référer, c'est la Déclaration au peuple français, qui est un peu le texte programmatique de la Commune. Il est adopté le 19 avril. Et ce texte pose, disons, deux choses. Le premier, c'est une nouvelle conception de la République. Il s'agit véritablement d'instaurer une République, mais une République de type nouveau. Une République qui reconnaît justement une très, très large autonomie et souveraineté aux communes. Donc le modèle de la Commune de Paris est appelé à se généraliser dans l'ensemble du territoire et à construire une forme d'unité républicaine qui ne met pas en cause l'unité nationale. Ça, l'Assemblée de la Commune est très claire là-dessus. Il s'agit au contraire de refonder l'unité nationale et la forme républicaine, mais en reconnaissant une autonomie des formes communes et donc un contrôle et une participation des citoyens pas des citoyennes, mais des citoyens en tout cas, à plusieurs niveaux en fait, hein, en commençant par un niveau précisément local, puis après jusqu'à un niveau national à proprement parler, sans remettre en cause l'existence, la nécessité de grandes administrations qui, au niveau national justement, doivent régler un certain nombre de choses qui ne peuvent être réglées qu'au niveau national. Donc une nouvelle conception de la refondation d'un régime républicain par en bas, avec une dimension participative, une dimension de contrôle populaire qui est mise en avant. La deuxième chose que ce texte dit, c'est l'affranchissement du prolétariat, la fin du servage du prolétariat. Bon. Alors, les formulations sont très générales, hein, donc tous les projets qui concernent le travail et l'échange. Hein. On pense ça dans les termes du socialisme de l'époque, hein, de ce que le socialisme, et le socialisme français en particulier de l'époque, met en avant comme projet pour libérer justement le travail de l'emprise du capital. C'est un projet d'organisation du travail, hein, qui s'appuie en fait sur, disons, deux piliers. Le premier, c'est les coopératives. Il s'agit de généraliser le modèle des coopératives, mais là aussi, il faut le préciser parce qu'il y a plusieurs façons de penser la coopérative. Il y a notamment la façon de Proudhon, qui a beaucoup insisté là-dessus, qui a beaucoup influencé le mouvement ouvrier français, mais à ce moment-là, le mouvement ouvrier français a très largement échappé au proudhonisme, en fait. Donc, les coopératives sont conçues comme un moyen de confier l'outil de travail et les moyens de production aux syndicats. Et c'est ce que va faire la Commune, d'ailleurs, hein, avec le décret sur la réquisition des ateliers abandonnés, Ludivine l'a déjà mentionné, c'est auprès des chambres syndicales, et d'ailleurs, en premier lieu, auprès de l'Union des femmes, qui se conçoit justement sur le modèle elle-même d'une sorte de mouvement syndical en formation, qu'elle va s'adresser pour dresser la liste de ces ateliers, et après, mais ça n'a pas pu être fait, le temps a manqué, pour en prendre le contrôle. Et puis, il s'agit de mettre en réseau, hein, de fédérer justement ces coopératives, de les construire dans une organisation nationale, et d'utiliser le pouvoir public de la commune pour aider précisément cette organisation du travail, cette organisation coopérative du travail, pour susciter de telles structures là où elles n'existent pas et pour établir en quelque sorte des liens préférentiels avec elles, pour que les commandes, par exemple, soient passées, les commandes publiques soient passées en priorité auprès du modèle des coopératives. Donc, il est vrai qu'il n'y a pas un modèle d'expropriation en tant que tel de la propriété privée en général qui est mise en œuvre, mais il y a un modèle de reprendre en main le contrôle des branches de production par le fait que le modèle des coopératives va pouvoir se généraliser grâce à l'appui du pouvoir public, du pouvoir populaire, du pouvoir ouvrier. Et une dernière chose, parce que j'y tiens, on met souvent en contraste, on dit, vous voyez, la Commune de Paris, c'est pas du tout la Révolution d'octobre, parce que là, les bolcheviks ont pris le pouvoir et ils ont tout de suite étatisé les moyens de production, etc. Bon. Quand on regarde ce que les historiens, le travail des historiens récents sur la Révolution russe a montré, on voit qu'en réalité, le problème s'est posé exactement de la même façon. Il n'y avait aucune volonté immédiate des bolcheviks et des autres socialistes, d'ailleurs, qui au départ ont collaboré avec eux, de socialiser ou d'exproprier la totalité des moyens de production. Il y avait la volonté de faire un contrôle ouvrier, qui n'était pas du tout la socialisation ou l'étatisation des moyens de production, et c'est précisément par les usines abandonnées, en réalité, dans un contexte de guerre, qu'on a commencé petit à petit à socialiser. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de parallèles dans la manière dont des pouvoirs révolutionnaires qui ont fait face toujours à des situations d'exception, à des situations en général de guerre et de guerre civile, se sont confrontés concrètement aux problèmes de gestion de l'économie. Rarement en ayant une sorte de plan déjà fait en tête, mais toujours avec l'idée de faire face à des urgences vitales, et à impulser des processus de contrôle par les travailleurs, par en bas, et de réappropriation des moyens de production dans un scénario qui restait très, très ouvert hein, quant à sa direction finale. Et Marx le soutient, il faut le souligner, avec enthousiasme. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les historiens disent « Oh, vous savez, Marx, les coopératives, c'était pas du tout ça, Engels, il voulait l'étatisation des moyens de production, le Gosplan, c'est déjà dans Marx ». Bon, voyons, c'est pas ça du tout. Enfin, il n'y a pas un seul texte de Marx et Engels qui puisse être invoqué à ce sujet. Au contraire, c'est avec enthousiasme qu'ils appuient ces projets de généralisation de coopératives, tout en soulignant qu'il y a des conditions pour que les coopératives ne se transforment pas en moyen d'auto-exploitation des travailleurs. Il faut qu'elles soient généralisées, il faut qu'un pouvoir politique se mette en place, il faut que des activités économiques soient coordonnées et planifiées à un niveau démocratique et associatif. La dimension associative est constamment soulignée par Marx et Engels. Donc, ils essayent de voir des éléments de communisme dans le sens des éléments qui poussent plus loin, en quelque sorte, que même les intentions des communards dans les processus qui sont en train d'être expérimentés et vécus à chaud par les actrices et par les acteurs de la Commune de Paris.
Oui, et d'ailleurs, les deux thématiques qu'on est en train d'entrelacer depuis le début de notre discussion, à savoir d'une part la démocratie, d'autre part le travail émancipé du capital, s'entremêlent elles aussi, ces deux thématiques. Parce que si on prend les mesures qu'on peut évoquer, qui le sont traditionnellement, et tout en revenant, comme vient de le faire Statis, à ce qui travaille de manière structurelle, au-delà même de ces quelques mesures, on voit qu'il y a une question démocratique qui est posée à chaque fois. C'est-à-dire que les communeuses et communeux veulent être conformes à ce modèle de la démocratie véritable et se posent sans cesse la légitimité qu'ils peuvent avoir à prendre telle ou telle mesure. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. En fait, on est même complètement surpris de les voir dès le 18 mars, c'est un dimanche, se dire, voilà, on va organiser des élections mercredi. Voilà. Ils ont quand même ce souci de la démocratie immédiatement. Et donc, ça signifie aussi que pour toutes ces mesures, ils se posent, encore une fois, la question de leur droit démocratique à faire ou pas. La Banque de France, on en parle très souvent, en fait, évidemment, dans toute l'histoire du mouvement révolutionnaire et du mouvement ouvrier. On a dit, mais la Commune n'a pas osé prendre l'offensive de s'en prendre à la Banque de France. Bon. D'abord, il faut dire que les dés n'étaient pas définitivement jetés à cet égard et que passer à l'offensive faisait partie des possibilités qui n'étaient pas écartées. Mais dans un premier temps, il y a... Mais en fait, nous sommes la Commune de Paris. Nous voulons en effet une sorte de fédération de communes à l'échelle du pays. Et d'ailleurs, il y a des soulèvements insurrectionnels dans différentes villes du pays qui se proclament communes, qui sont très rapidement écrasées. Mais ça correspond à ce projet de fédération. Nous sommes Paris, nous ne sommes pas la France, nous ne sommes pas le pays. Et donc, est-ce que s'en prendre à la Banque de France en forçant les coffres est légitime ? La question va pouvoir se poser à leurs yeux plus tard, mais là, dans un premier temps, ils négocient, c'est d'ailleurs notamment Eugène Varlin, qui est quelqu'un à propos duquel il faudra souligner à nouveau le rôle et l'influence, me semble-t-il, sur la question aussi du travail. Eugène Varlin négocie avec le gouverneur de la Banque de France. Bon, ça c'est un premier aspect. La question que vous évoquiez du travail de nuit des boulangers, c'est très passionnant de voir le dialogue, la discussion stratégique qui est posée. Est-ce que, en fait, on se dit, peu importe l'avis des patrons, on en finit avec ce travail de nuit particulièrement aliénant, particulièrement exploiteur, etc. Il y a toute une discussion dans le Conseil de la Commune à ce sujet. Mais globalement, la majorité dit... peu importe que les patrons viennent se plaindre de cette mesure, elle sera prise parce que c'est l'une des mesures vraiment non seulement sociales, mais socialistes de la Commune. La réquisition des ateliers, le décret du 16 avril 1871, des ateliers abandonnés, donc qui ont été laissés vacants par leurs propriétaires, justement est défendue aussi comme une des fortes mesures socialistes de la Commune. Et puis, on pourrait penser aussi, par exemple, à tout ce qui concerne la réquisition des logements vides. C'est tardif, précisément parce que la Commune a aussi ce souci toujours de la légitimité démocratique. Donc, est-ce qu'on peut s'emparer de ces logements ? Finalement, c'est une mesure qui est appliquée lorsqu'on s'aperçoit que Versailles bombarde et que des Parisiennes et des Parisiens se retrouvent sans logement, que donc on songe à réquisitionner ces logements abandonnés par la bourgeoisie. Mais ce que je voudrais souligner aussi, c'est que, dans le prolongement de ce qu'a dit Statis, c'est qu'on les voit s'organiser par ailleurs, indépendamment de ces mesures, pour faire en sorte que la solidarité ouvrière par le biais des coopératives se mette en place et que le travail ne soit plus un travail sous le mode de l'exploitation. C'est très difficile d'ailleurs sous la commune, parce que le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent, en fait. Et qu'on voit, par exemple, Léo Frankel, Eugène Varlin se débattre avec la réalité très pragmatique de cette émancipation du travail. Parce que comment faire pour, d'un côté, favoriser les coopératives ouvrières, toutes les formes, en effet, de coopération, de chambres syndicales, de caisses de prévoyance, etc. Et en même temps, faire en sorte que le salaire des ouvrières et des ouvriers ne diminue pas à la faveur des difficultés financières intenables qui asphyxient justement aussi la commune. Ce qu'on peut dire à propos des temporalités, c'est qu'elles sont aussi sédimentées. C'est-à-dire que voilà, la commune ne surgit pas ex nihilo. Il y a en fait ces expériences de coopératives qu'a très bien décrites Statis. Ce sont des expériences qui ont 10 ans, 20 ans, voilà, qui sont d'ores et déjà mises en œuvre depuis un certain temps. Et donc la commune, et ça pose la question de l'État, ça pose la question politique, comme tu l'as évoqué Statis il y a quelques instants, c'est-à-dire en fait à quelles conditions, en effet, ces fédérations de coopératives, notamment sous une organisation de type syndical, peut-elle être réalisée justement en dehors de tout rapport d'exploitation? Et ce que propose par exemple quelqu'un comme Eugène Varlin, qui travaille depuis des années à ça, qui est un ouvrier relieur, autodidacte, incroyable de ténacité, de courage, qui a pris part à toutes sortes de grèves justement, mais aussi de mise en place de coopératives d'alimentation, de caisses de prévoyance, hein, la marmite notamment, la caisse du sou, etc. Varlin le dit aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Voilà, ces coopératives, elles sont très importantes pour que le travail des productrices et des producteurs revienne tout entier quant à sa valeur à ces producteurs et productrices. Mais ça pose une question politique. Ça pose la question justement de ce que peut faire la commune pour aider ces coopératives à se fédérer et donc à s'émanciper réellement de tout risque d'auto-exploitation. Je vais complètement dans le sens de Statis, évidemment, à cet égard.
Est-ce qu'on peut élargir la focale géographique? Parce que là, on parle de Paris depuis le début, et c'est vrai que c'est l'épicentre entre mars et mai 1871, mais est-ce qu'il y a d'autres soulèvements dans d'autres villes françaises? Parce que donc voilà, on a compris que les campagnes avaient plutôt voté royaliste aux élections de février, mais que c'est plutôt dans les villes, en fait, qu'il y a des foyers... républicains, voire socialistes. Donc, est-ce que voilà, il y a d'autres communes en fait dans d'autres villes en France? Et aussi, je voulais poser la question même à l'étranger, en fait, à l'international. Comment est-ce qu'il y a d'autres soulèvements à ce moment-là en Europe? Et puis aussi, comment est-ce que les communeuses, comment est-ce que la Commune de Paris, est-ce qu'elle s'est positionnée? Est-ce qu'il y a des textes, des choses sur la question des colonies, en fait? Enfin voilà, est-ce que ça s'est resté un impensé de la Commune? Bon, il y a beaucoup de choses dans ma question, mais c'est pour essayer de voir un petit peu le tableau plus large.
Alors, je voudrais dire quelques mots pour bien comprendre aussi l'un des problèmes principaux que la Commune n'a pas pu résoudre et qui est l'une des causes majeures de sa défaite, c'est le déphasage, la désynchronisation entre les soulèvements parisiens et ceux des autres villes. Mais pour cela, il faut comprendre quelques caractéristiques de la Commune en tant que pouvoir révolutionnaire de type nouveau. Et ça, je crois que les textes de Marx... Ils ont été écrits à chaud, mais ils font preuve d'une lucidité et d'une capacité d'analyse absolument extraordinaire. Ce que Marx voit, et ça lui permet de théoriser d'ailleurs, y compris sur ses propres conceptions de la révolution, du pouvoir révolutionnaire, du communisme, c'est que se met en place un pouvoir politique qui est une rupture radicale avec l'État bourgeois, y compris sous ses formes républicaines classiques, en tout cas. Où se trouve cette rupture? Dans deux choses, pour aller vite. Le premier, Ludivine l'a déjà mentionné, c'est sur le fait d'abolir, ou en tout cas de diminuer radicalement, la distance entre représentants et représentés. Donc soumettre, alors ce n'est pas abolir la représentation, attention, parce qu'on confond souvent les choses. La commune d'ailleurs elle-même est une assemblée élue. au suffrage universel, entre guillemets, masculin, tout à fait classique. Hein. La notion de mandat impératif, par exemple, qui est invoquée, elle est invoquée en tant que principe qui doit empêcher les représentants de s'autonomiser par rapport au mandat qu'ils ont reçu. Mais il n'y a pas de procédure formelle à proprement parler derrière ce terme de mandat impératif. Ce qu'il y a, par contre, en tout cas comme aspiration, c'est la révocabilité des élus. Et le fait qu'ils doivent rendre des comptes.
Et un salaire aussi, pardon.
Un salaire qui a été plafonné, effectivement, ouais. Bon, à un niveau qui était assez élevé, mais quand même, un salaire plafonné. Hein. Bon. Donc, l'essentiel, c'est quand même la révocabilité, hein, pour empêcher justement cette autonomisation des représentants par rapport aux représentés. L'autre dimension, c'est que l'organisation interne du pouvoir révolutionnaire doit aussi être profondément transformée. Hein. Alors, ça, c'est quelque chose que Marx, d'une certaine façon, c'est plus sa volonté de le voir résoudre que ce qui s'est passé en réalité ici qui apparaît dans ses textes, quand il parle d'une sorte de pouvoir agissant, un peu sur le modèle des assemblées révolutionnaires de la Révolution française, hein, notamment de la Convention, qui n'était pas simplement un pouvoir de délibération et de législation, mais un pouvoir qui, à travers une multitude de comités, surveillait la mise en œuvre, justement, de ces décisions. Bon, ça, c'est un problème auquel il faut être clair.
Législatif et exécutif.
Exactement. Hein. Donc, en réalité, c'est soumettre l'exécutif au contrôle du législatif et le législatif lui-même au contrôle populaire. Hein. Donc, c'est assumer, en quelque sorte, une volonté de contrôle et de participation à tous les niveaux de la mise en œuvre des décisions. Bon, ça, la Commune n'a pas pu le résoudre. Hein. C'est l'un de ses gros problèmes. La question de l'exécutif n'a jamais été résolue. Ça a donné lieu à des dissensions très graves, hein, qui ont menacé même sa cohésion vers la fin, avec la création très controversée d'un comité de salut public. L'autre dimension, c'est la débureaucratisation de l'État.
Pour bien comprendre ce point-là, la question, c'était comment est-ce que le débat s'est posé à la fin? C'était quoi? C'était face aux forces ennemies,
il y avait une efficacité. Tout le monde s'accordait de dire que la Commune parlait beaucoup et mettait peu en œuvre ses décisions. En plus, la situation militaire se dégradait très fortement, en fait. Hein, c'est ça qui met
donc,
le feu au bout.
Dans ce contexte, c'est poser la question d'un exécutif.
Voilà, d'un exécutif renforcé. Le problème, c'est que une majorité de la Commune s'est déclarée en faveur de ressusciter une sorte de recette révolutionnaire qui agissait plus sur la symbolique que sur la réalité. Un comité de salut public qui fait appel aux grands souvenirs de 93. Le problème était réel. Tout le monde s'accordait sur la nécessité d'un exécutif beaucoup plus efficace et renforcé, mais on n'était pas d'accord sur le fait que, par miracle, en déléguant d'une façon très peu contrôlée le pouvoir à quelques-uns, on allait résoudre le problème. D'ailleurs, le comité de salut public a été d'une inefficacité tout aussi grande que la commission exécutive qui le précédait. Mais je veux revenir un instant sur la question de la bureaucratie, hein, et de la débureaucratisation. C'est très important. Dans les textes déjà qui précèdent la Commune de Paris, on voit une aspiration des organisations ouvrières à un principe de révocabilité des fonctionnaires, ou en tout cas de certains postes fonctionnaires, on peut supposer à partir d'un certain niveau de responsabilité. Eh bien, c'est ce que Marx, justement, veut mettre en avant, cette volonté d'empêcher non pas la formation de gens dans les administrations qui font leur travail, hein, mais dans le fait qu'ils ne doivent pas se constituer dans une sorte de caste qui capte la décision et la délibération publique et la rend complètement opaque et étrangère au contrôle de la population. Donc là aussi, de la même façon qu'il faut empêcher l'autonomisation des représentants, il faut empêcher l'autonomisation entravée par tout un certain nombre de mécanismes. La Commune essaye d'en mettre en place quelques-uns, elle n'a pas pu là encore faire le travail, mais on voit ici se dégager une innovation radicale. Et ça, Marx et Engels vont en faire un point, à leur avis, structurant, qualitatif, de tout pouvoir révolutionnaire qui veut construire un pouvoir politique, un pouvoir public, au service d'un projet d'émancipation sociale, au service d'un projet d'émancipation sociale et du travail, et non pas comme un verrou qui permet de figer, justement, un ordre social immuable, oppressif et exploiteur.
Alors, avant de revenir à la question, du coup, aussi des fédérations de communes et des insurrections de communes un peu partout dans le pays, l'interrogation aussi sur la dimension internationale ou internationaliste de la commune. Pour prolonger ce qu'a dit Statis, ce qui me semble justement très intéressant pour nous, à partir du moment où on se pose les enjeux de la commune au présent, de l'actualité politique, stratégique et révolutionnaire de la commune, c'est précisément de ne pas, à notre tour, polisser la commune, comme je le disais tout à l'heure à propos de ces fameuses commémorations. C'est-à-dire que si la commune nous intéresse aussi, c'est pour les débats, les conflits, les dissensus stratégiques qui se sont posés, et notamment, par exemple, le fétichisme du passé qui pèse un peu comme un couvercle, comme un fardeau sur les révolutions du présent, comme l'avait souligné Marx. Et ça, on le voit vraiment. Et d'ailleurs, en retrouvant les archives des délibérations autour du comité de salut public, je reproduis les votes et les explications de vote des différents membres du conseil de la commune. Par exemple, quelqu'un comme Gustave Courbet va dire « Mais nous n'allons pas nous faire des plagiaires ». Il écrit le mot « plagiaire » vraiment en très gros.
C'est presque le terme que Marx a utilisé pour les révolutionnaires de 1948, qui ont aussi recyclé les souvenirs de la Grande Révolution.
Avec ce que disait Marx sur le fait que les révolutions sont devant une espèce d'abîme, de vertige, de la nouveauté absolue que fait surgir la révolution. Et donc, on a cette tendance à se réfugier en se référant dans le passé comme un fétiche. Et c'est vrai que ça s'est posé et ça a soulevé des questions, là aussi, démocratiques qui nous intéressent aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas lisser la commune comme si elle était homogène, harmonieuse. Pas du tout. Il y a eu, en effet, des conflits sur la question aussi. Est-ce qu'on est légitime à proclamer un comité de salut public? Et beaucoup de ceux qui deviendront donc la minorité en mai de la commune vont dire « Mais moi, j'ai un mandat et le comité de salut public ne fait pas du tout partie de mon mandat. » Il y aurait d'autres questions stratégiques, me semble-t-il, à soulever pour aujourd'hui, dont on n'a pas véritablement parlé jusqu'à présent. C'est l'enjeu de la fraternisation. La fraternisation avec les forces de l'ordre. Statis y a fait allusion, la commune est placée sous la chape de plomb d'une guerre civile terrible. Pas seulement à la fin avec la semaine sanglante, mais tout au long de ces 72 jours, enfin en tout cas à partir de début avril, c'est la canonnade. Il y a des morts chaque jour, des fédérés, des membres de la garde nationale, qui meurent chaque jour. Et donc c'est aussi le poids de cette menace de mort permanente, incessante, qui peut expliquer aussi ces dissensions, ce sentiment d'urgence, etc. Mais le 18 mars, et chose que les communeux vont se dire potentiellement répéter, c'est la fraternisation avec l'armée. Les soldats de cette armée de métier, les forces de l'ordre qui habituellement protègent l'ordre social, l'ordre établi, en l'occurrence l'ordre bourgeois, qui décident de fraterniser pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on ne va pas forcément revenir ici.
Alors que leur mission ce jour-là, c'était de venir s'emparer des canons de la garde nationale.
Pour les raisons que mentionnait Statis tout à l'heure, c'est-à-dire que le peuple est armé et c'est la crainte, la terreur de la bourgeoisie, c'est que le peuple use de ses armes pour une révolution justement sociale.
Et donc, pardon, mais pour bien comprendre, ce 18 mars, du coup, il y a des bataillons de l'armée qui vont fraterniser avec le peuple et la garde nationale. Oui. Mais du coup, dans les deux mois qui vont suivre, cet espoir, il va perdurer. Cet espoir il y aura chez le peuple de Paris l'espoir que la fraternisation se rejoue encore à nouveau.
Absolument.
Et que finalement, ils ne vont pas être écrasés par l'armée.
Jusque assez tard, il va y avoir cette espérance que la fraternisation se renouvelle. Le fait de sortir militairement de Paris, la garde nationale est amenée à sortir pour essayer de repousser Versailles, en fait. De repousser le gouvernement pour qu'il s'installe beaucoup plus loin de Paris. Mais très vite, on ira de défaite en défaite militaire pour la commune, avec le constat que Thiers est prêt à tout pour exterminer ce mouvement ouvrier, ce mouvement révolutionnaire. S'il y a autant de morts, entre 10 000 et 20 000, dans les rues de Paris lors de la semaine sanglante, c'est précisément parce que l'horreur de la bourgeoisie est telle qu'elle est prête elle-même à ces horreurs inimaginables, inconcevables. Bon. L'autre échec, mais qui s'explique aussi par justement la détestation qui s'imprime chaque jour dans les journaux versaillais ou leurs équivalents, C'est donc le fait qu'en province, la commune en particulier et Paris en général passent vraiment pour une bande de barbares, de voyous, de gredins, etc., qu'il faut absolument réprimer. Et ça, ça va être très, très important pour expliquer la déconnexion qu'évoquait également Statis entre la commune et le reste du pays. Il y a eu des soulèvements insurrectionnels et même révolutionnaires à Marseille, à Lyon, à Saint-Étienne, à Alger, à Narbonne, etc. Mais très vite écrasés, et avec ce sentiment en province, sentiment très entretenu par la presse anti-révolutionnaire, contre-révolutionnaire, à laquelle participent aussi des écrivains qu'aujourd'hui on adule beaucoup pour d'autres raisons, qu'il s'agisse de Flaubert, de Zola, de Georges Sand, dans une autre mesure de la comtesse de Ségur, tout se voue à une haine de la commune qui a bien sûr des effets, j'allais dire performatifs, au sens où ce sont des effets agissants sur une partie de la population, et notamment les campagnes encore très majoritaires, dans la détestation de Paris et dans la nécessité de cet écrasement. Sur la question des colonies, de l'empire colonial, oui, là, il faut bien reconnaître que c'est un impensé de la commune. Il y a quand même une insurrection en Kabylie, exactement au même moment, hein. Et au minimum, c'est l'ignorance ou alors plus largement une certaine indifférence. Hein. Bon, il y a aussi d'autres. Enfin, voilà, il y a peu de communication, etc. Mais donc deux événements comme ça insurrectionnels se jouent, mais qui ne se nouent pas. Voilà. Ça pose aussi une autre question stratégique, me semble-t-il, hein, c'est celle de la démocratie articulée à la liberté de la presse.
Oui,
c'est un autre débat hein, qui s'est vraiment posé sous la commune.
Il faut interdire les journaux.
Voilà. Est-ce qu'il faut interdire cette presse qui veut l'extermination de la commune? Est-ce qu'on peut lui donner les moyens de répandre sa haine, mais non seulement sa haine, mais également ses consignes militaires pour... abattre justement la commune. Ce débat a lieu et là aussi, il me semble qu'il ne faut pas le contourner. Hein. Il faut se reposer avec elle, avec cette commune, les questions qui ont été si graves, si cruciales. L'écrivaine, journaliste André Léo se bat d'une manière farouche, déterminée, tenace pour la liberté de la presse pleine et entière. Hein. Elle dit que si on censure certains titres de journaux, alors on ressemblera finalement à cet ennemi contre lequel on est amené à se battre sur le terrain de la démocratie. Et d'autres lui disent qu'évidemment, comme un principe, c'est ce qu'il faut viser, mais on est en guerre. Et que donc, cette presse, finalement, c'est comme si elle portait les armes, elle fourbissait ses armes contre la commune. Mmh. Donc ce sont des enjeux qui montrent que voilà, la conflictualité est à l'œuvre et qu'il faut pouvoir la ressaisir à la fois en contexte et pour ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui.
Mais là, par exemple, bon, je prends la question de la presse, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais la commune ne nous apporte pas de réponse, en fait. Elle nous aide à voir quel est le débat, mais en fait, la question va se reposer dans
décisions.
Les mêmes termes.
Elle a pris des décisions. Il y a un autre débat. Là, en l'occurrence, il y a eu des censures.
Des journaux ont été interdits.
Un certain nombre de journaux ont été interdits. De même qu'il y a eu tout un débat, lui aussi, très intéressant sur la manière ou pas de rendre publique la publicisation des débats à l'intérieur du Conseil de la Commune. Bon, certains estimaient que c'était justement cette question. Alors, aujourd'hui, le mot transparence a été très, très largement galvaudé. Mais l'idée de pouvoir rendre compte, de pouvoir rendre des comptes, parce qu'on est mandataire, et donc il faut rendre public les débats qui sont soulevés à l'intérieur de ce conseil élu de la commune. Et d'autres disent, mais en fait, on est en guerre, on ne va pas forcément livrer les questions tactiques, stratégiques qui sont posées au sein même de ce conseil.
Il y a d'autres questions qui ont fait également débat et controverse. Hein. Qui contrôle la police, par exemple, hein. Bon, la police dite ex-préfecture de Paris, parce que la préfecture ancienne a été abolie, mais en réalité, elle a été reprise en main, on va dire, par des cadres de la commune. Elle a été confiée à des blanquistes. Hein. C'était eux qui se portaient volontaires hein, pour ce genre de tâches, on va dire. Hein. Les partisans d'Auguste, du grand révolutionnaire, Auguste Blanqui, qui, comme on le sait, étaient partisans de la manière forte, on va dire. Hein. Bon. Donc, celui qui est à la tête donc, de l'ex-préfecture de police, Raoul Rigaud, adopte des méthodes qui sont parfois extrêmement nécessaires, hein, notamment notamment démanteler l'ancienne police bonapartiste, essayer de voir quels sont les mouchards. Tout ça, ce n'est pas de la parano. Hein, les mouchards, ça existait vraiment. Versailles envoyait sans arrêt des gens pour surveiller ce qui se passait à Paris, faire des rapports et même essayer d'influer sur les décisions de la Commune. Tout ça est avéré. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, il y a d'autres questions qui se posent dans un contexte, comme par exemple que la police ne peut pas être utilisée pour régler des comptes d'ordre privé, par exemple. Hein. Bon, qu'il y a des procédures à respecter. Sinon, il y a des bavures qui sont faites, y compris à l'époque. Hein. Donc très rapidement, en fait, le travail, les méthodes de Rigaud, on va dire, deviennent l'objet de controverses, y compris à l'intérieur de la Commune, y compris d'ailleurs par d'autres de ses camarades blanquistes, hein, comme celui qui est chargé de la justice, Proto, par exemple, qui s'oppose très vivement, avec d'autres communards, d'ailleurs, aux méthodes de Rigaud. Hein. Donc on essaye de voir comment est-ce que l'Assemblée de la Commune peut mettre sous son contrôle la police. Donc on voit que ce genre de questions qui vont préoccuper ô combien les pouvoirs révolutionnaires qui vont se succéder se posaient déjà sous la Commune de Paris. Et encore un élément peut-être sur les communes de province pour compléter ce qu'a dit Ludivine. Lyon est un cas particulier parce que Lyon est une ville qui connaissait une industrialisation et un mouvement ouvrier déjà très développé avec de longues traditions depuis la révolte des Canuts. Mais c'est un peu une exception. En lisant les travaux des historiens sur les communes dites de province, l'impression qui s'en dégage, c'est que ces insurrections communalistes, bon, d'une part, ont été aisément écrasées, mais d'autre part, elles étaient motivées surtout par des revendications d'ordre démocratique, patriotique, et se battaient essentiellement pour un programme, on va dire, républicain radical, avancé, avec des libertés communales très larges, avec une volonté aussi de réorganiser la défense et de mener jusqu'au bout la guerre contre la Prusse. La question d'une révolution sociale ou d'une remise en cause de l'ordre social apparaissait beaucoup moins dans des villes comme Marseille ou Narbonne, peu industrialisées. Bon, le Creusot était encore un cadre différent, mais là, il y avait un déphasage entre les cadres ouvriers et les cadres actifs dans le soulèvement de la Commune. Mais disons que Lyon est un cas particulier dans lequel les révolutionnaires lyonnais, en fait, se sont sans doute trop pressés pour passer à l'action. Et je crois que l'influence de Bakounine et de ses disciples n'a pas été, disons, tactiquement utile dans ce cas-là. Leurs cartouches étaient grillées justement au moment où ils pouvaient embrayer sur Paris. Ils avaient déjà essayé leur coup et ils avaient échoué. Mais nulle part, on ne voit dans les communes de province les gardes nationales, par exemple, passer du côté de l'insurrection dans leur majorité. Hein. Il y a des bataillons, bien sûr, qui se rangent, mais dans leur majorité. Donc cela signifie que les élites républicaines provinciales réussissent à peu près garder le contrôle de la situation dans ces villes, alors qu'à Paris, effectivement, le conflit de classe atteint un niveau beaucoup plus aigu et les traditions révolutionnaires parisiennes sont aussi beaucoup plus abouties et permettent justement une issue différente de celle des villes de province. Donc je crois que quand Marx et Engels disaient au début septembre, conseiller aux révolutionnaires français, aux sections de l'Internationale, de dire « vous avez un régime qui peut évoluer dans le sens d'un régime républicain, essayez de vous réorganiser, de vous battre dans les conditions de ce régime, il ne nous semble pas que la France soit prête pour une révolution sociale dans sa globalité », ils avaient quand même quelques bonnes raisons de le penser. Hein. Ils avaient quelques bonnes raisons de penser que, comme en 48, le Paris révolutionnaire risquait de se retrouver coupé du reste du pays, et donc le scénario infernal qu'on avait déjà vu en 48, en particulier lors de l'insurrection de juin, pouvait se reproduire à nouveau.
Et c'est ce que dit aussi Eugène Varlin, à peu près
oui,
au même moment.
Varlin au même moment, alors que Bakounine dit la France est prête pour la révolution communiste. Elle est prête pour le communisme et j'y vais moi-même pour essayer de hâter les choses. Et puis les gens qui tergiversent ou qui ont des doutes, etc., sont ceux qui veulent retarder simplement le processus. Non, il faut passer à l'action tout de suite.
Voilà. Bon. Et dans le cas de Varlin, par exemple, évidemment, d'un côté, il dit en effet que la situation n'est pas mûre et encore à l'été et au début de l'automne 1870. Et puis, c'est le kairos hein, dont Statis parle dans son texte. Le kairos, le fait de se saisir de l'événement dans son opportunité, dans son irruption. Et bien, évidemment, Varlin s'engouffre et s'engage dans la Commune, corps et âme, et en y consacrant, et on le voit vraiment dans les archives, agir tous azimuts pour la Commune, bien sûr.
Notre ami et regretté camarade Daniel Ben Saïd le disait, la révolution survient toujours à contre-temps. Elle ne demande pas l'autorisation, elle frappe toujours à la porte de manière intempestive.
Et Marx, justement, à l'époque, comment lui est-ce qu'il s'informe? Parce que lui, à ce moment-là, il est à Londres. Comment est-ce qu'il s'informe sur ce qui se passe à Paris? Et quelle est son influence à lui sur les événements à Paris? Parce qu'il a ses relais aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur son influence peut-être décisive sur la Commune. Est-ce qu'elle était si décisive que ça? Voilà, comment est-ce qu'on peut résumer les liens entre Marx et la Commune?
Marx lui-même n'a jamais prétendu que son influence sur la Commune a été décisive. Hein. Et autant l'international a joué un rôle important, autant il faut se méfier des anachronismes. Hein. La première internationale, l'Association internationale des travailleurs, et ses sections parisiennes et françaises d'ailleurs, ne sont pas du tout l'organisation centralisée qui va apparaître beaucoup plus tard, en fait, hein, dans l'histoire du mouvement ouvrier. C'est plus un réseau militant, en fait, hein, qui s'informe. Alors, bien sûr, il y a des orientations. Hein. Il y a des débats, il y a des orientations, il y a des décisions qui sont prises. Mais ce n'est pas du tout une sorte d'organisation centralisée, disciplinée, qui obéit à des sortes de directives qui viendrait d'un centre de Londres, les choses sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus mouvantes. Alors, Marx, ceci dit, est une figure de proue de l'international, de son centre, de son conseil général, qui est basé à Londres. Engels, d'ailleurs, est coopté très rapidement, justement, pour l'aider dans les travaux du conseil général. Et il s'appuie, en fait, sur des gens qui sont proches d'eux. Les rapports formels, en fait, avec les sections françaises et parisiennes en particulier, sont interrompus à cause de la répression qu'elles subissent, déjà avant même la guerre franco-prussienne, puis avec la désorganisation qui suit le conflit. Donc, ils vont s'appuyer, en fait, surtout sur des gens avec lesquels ils ont des rapports privilégiés, et des internationaux et des émissaires. Donc, ils envoient deux émissaires, en fait. Le premier, c'est dès septembre, en fait, tout de suite après l'effondrement de l'Empire. Ils envoient Auguste Serraillé, qui est un militant français, membre du Conseil de l'International, quelqu'un d'important, mais qui vit en Angleterre, à Londres, depuis déjà fort longtemps. Donc, on l'envoie à Paris avec les pleins pouvoirs. Et il va essayer de réorganiser, de jouer un rôle justement dans la réorganisation d'une internationale qui est très très affaiblie par la répression et les effets de la guerre. D'ailleurs, il y aura toutes sortes de conflits internes qui vont paralyser pendant un long moment en réalité l'internationale. Donc c'est l'un des éléments en fait hein, de cela. Alors que l'internationale est présente en force dans le Conseil de la Commune, alors qu'elle fournit la grande majorité de ce qu'on appellerait les cadres intermédiaires de la Commune. Les travaux des historiens l'ont montré. Elle est même majoritaire au Conseil de la Commune après les élections d'avril, après les élections partielles d'avril. Elle n'agit en aucun cas comme une sorte de centre politique de direction du mouvement. Ça, c'est l'une des leçons que non seulement Marx, mais les communards français, hein, enfin ceux qui sont militants de l'international, vont tirer de ces événements dans leur majorité. Et puis, ces émissaires, évidemment, envoient des correspondances à Marx. Serraillé sera rejoint par une personnalité absolument extraordinaire, une véritable figure romanesque. Alors j'invite à sa redécouverte, Elisabeth Tomanovskaya de son vrai nom, qui prend le nom de guerre de Dmitriev quand elle se rend à Paris en mars, et elle fonde l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, avec tout un réseau de militantes parisiennes du mouvement ouvrier chevronné, parmi elles Nathalie Lemel, qui joue un rôle très important. Et c'est quelqu'un qui également envoie des lettres et des correspondances avec le Conseil général de l'International, et Marx en particulier, avec lequel elle a des liens plus étroits. Je reproduis ce qui nous reste de cette correspondance, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. La plupart de ces lettres ont été perdues ou ne sont pas parvenues à leur destinataire, car les moyens de communication sont évidemment extrêmement désorganisés par les conditions du siège de la guerre et de la répression qui existait à l'époque. Donc, ces communards, Léo Frankel est aussi quelqu'un qui est proche de Marx, hein, de la famille de Marx. Ils se connaissent déjà, il était à Londres, il connaît la famille de Marx, il connaît Laura Lafargue. Julien Schussville lui a consacré une formidable biographie. J'invite à la lire, parue maintenant aux éditions Libertalia. Donc, Léo Léo Frankel demande conseil à Marx. Léo Frankel n'est pas n'importe qui dans le Conseil de la Commune. Il fait partie de l'exécutif de la Commune et il est à la tête de la fameuse Commission du Travail et de l'Échange, dont on a cessé de parler depuis le début de notre discussion. Et il demande conseil à Marx. Et d'autres, Lafargue suggère que Engels envoie son expertise militaire. Donc, c'est des conseils que Marx envoie. C'est des analyses, c'est des conseils, c'est un réseau de communication qui permet au mouvement ouvrier international de se positionner et d'apprendre de ce qui se passe à Paris, mais ce n'est certainement pas une sorte de chef occulte, comme la propagande réactionnaire d'ailleurs de l'époque essaye de le présenter, qu'il tire les fils, que c'est Marx, prussien d'ailleurs, donc la bourgeoisie française a tout intérêt de montrer que c'est les ennemis de la France qui essayent de manipuler. Il y a tout un mythe sur les étrangers, en fait, que la Commune est un complot cosmopolite d'étrangers et l'international est particulièrement stigmatisé là-dessus. Donc il faut remettre les choses, je crois, dans leur juste proportion.
Alors, on approche de la fin de cette émission. On avait commencé en parlant de l'actualité de la commune au présent. J'aimerais qu'on revienne justement là-dessus pour finir. Et la question que je vais vous poser de manière un peu peut-être provocatrice, mais est-ce que cette expérience qu'on a décrite, est-ce qu'elle n'est pas obsolète aujourd'hui? Je veux dire par là que cette révolution dont il est question avec la commune, c'est une révolution d'ordre insurrectionnel. C'est des barricades, c'est des morts, beaucoup de morts. Alors, beaucoup de morts, évidemment, d'abord et avant tout du côté des communards, mais aussi... du côté versaillais. Aujourd'hui, 150 ans plus tard, les rapports sociaux se sont quand même largement pacifiés, enfin, aussi bien du côté de la contestation que de la répression. On n'est plus dans des rapports aussi violents, on n'a plus de peuple en armes, on n'est plus dans des guerres comme ça européennes. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si on doit penser, si on s'intéresse à la question de la révolution et qu'on doit essayer de réfléchir à quoi pourrait ressembler une révolution à venir dans des sociétés occidentales, on peut penser... à quelque chose comme le suffrage électoral ou éventuellement à quelque chose comme le syndicalisme et une grève générale. Mais ce troisième modèle, je schématise un peu, mais ce troisième modèle insurrectionnel qui est celui de la commune, c'est peut-être le moins probable en fait parmi tous, en tout cas pour les sociétés occidentales. Donc voilà, moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose là-dessus de daté qui ne se reproduira pas ou très invraisemblablement pour nous. Les barricades, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui... Ou alors c'est purement folklorique aujourd'hui si on met une barricade dans Paris. Mais est-ce que les circonstances n'ont pas tant changé que finalement... ça soulève plein de questions intéressantes, on l'a dit, sur la démocratie, sur la stratégie, sur la nationalisation de la banque. Mais pour ce qui est du rapport à la violence, on n'est quand même plus dans le même univers, j'ai l'impression.
Il me semble que les trois ingrédients que vous avez mentionnés sont présents au moment de la commune et du soulèvement de la commune, c'est-à-dire d'un côté la grève, même si voilà, on n'est pas face à une grève générale insurrectionnelle, en effet. Mais il y a eu toute cette conflictualité en termes de lutte de classe qui a précédé la commune et qui l'a préparée en quelque sorte. Ensuite, il y a en effet l'insurrection à proprement parler, la prise de pouvoir qui soulève une fois encore, ça me semble vraiment un élément très important. Et en effet, ça peut paraître décalé aujourd'hui, étant donné ce qu'est notamment la police française, l'enjeu de la fraternisation. Voilà. Est-ce qu'un soulèvement révolutionnaire est envisageable en contournant cette question-là? Et puis, il y a aussi la question électorale que la commune a mise en œuvre. Voilà. Donc, il me semble que ces éléments sont combinés. Mais bien sûr, on ne peut que vous donner raison sur le fait que la commune de Paris est située historiquement et qu'elle n'est pas reproductible. En revanche, ce qui importe, c'est de voir encore une fois les mises en œuvre, les questions qui ont été soulevées, toutes les tentatives, les expérimentations qu'on retrouve finalement de manière très contemporaine. Par exemple, il ne s'agit pas du tout de fétichiser le communalisme, mais il me semble que les questions qu'on a évoquées tout au long de cette discussion renvoient à ces pratiques d'un communalisme qui, si on se réfère à Bookchin notamment, qui évidemment parlait de la commune, pose tout à la fois la question de la démocratie au sens politique du terme, c'est-à-dire des assemblées populaires qui décident pour le commun ce qu'il y a à produire, ce qu'il y a à consommer, donc qui ne soit pas simplement politique mais aussi économique et sociale, et qui pose la question du pouvoir et de l'enjeu aussi de la disparition de l'État, tel que Marx le posait également. Donc, Il me semble que ces questions qui sont soulevées, par exemple, au Chiapas, au Rojava, voilà, sont directement aussi un fruit d'un héritage commun autour de la commune, précisément. Et donc, c'est en cela qu'elle est actuelle et qu'on peut revoir aussi à nouveau frais, au travers, par exemple, de cette question du dépérissement de l'État, tous les débats qui se menaient à cette époque, et pas seulement pendant la Commune elle-même, mais tout ce qui l'a précédé, qui a sédimenté et qui a permis à la Commune de voir le jour. Et surtout de ne pas rabattre la Commune sur une supposée fatalité, un destin inéluctable et tragique, qui empêcherait toute manière de la penser comme une expérience politique consistante et qui a toujours du sens aujourd'hui.
Alors, il faut, contrairement à ce qui est souvent dit, Marx et Engels, et sur ce point d'ailleurs, même les gens qui sont en désaccord avec eux sur leurs analyses de la Commune, du côté des libertaires par exemple, comprennent qu'avec la Commune, il y a quelque chose qui se termine en fait, quelque chose qui se clôt. Il y a des textes de Marx et davantage encore des textes d'Engels encore plus clairs à ce sujet que notamment la stratégie des barricades à laquelle vous faisiez référence n'est plus d'actualité, en tout cas pas en dehors d'un contexte de guerre généralisée, on va dire. Hein. Elle va le redevenir avec la Première Guerre mondiale, par exemple, oui. Hein. Mais pas dans un contexte qui n'est pas celui d'une guerre généralisée.
Le Chiapas, par exemple, enfin, les apatistes, ça commence par un soulèvement armé.
Oui, bien sûr, et on peut penser d'ailleurs
à... toujours un peu plus
D'ailleurs, Marx et Engels disent très bien que ceci n'est valable que dans les pays où se mettent en place des institutions représentatives, le suffrage universel. Là où il existe des régimes absolutistes, dictatoriaux, autoritaires, c'est bien entendu une insurrection, y compris une violence directe, en quelque sorte, qui est à l'ordre du jour. Mais pour eux, la lutte politique dans les pays européens, là en tout cas où justement des régimes, on va dire, de type parlementaire ou républicain, comme par la suite en France, existent, c'est la formation de partis politiques de masse, c'est la lutte et l'action politique et la formation de gouvernements socialistes qui est pour eux à l'ordre du jour. Donc des gouvernements où, par la voie électorale, les forces socialistes, les forces anticapitalistes accèdent au pouvoir. Mais, et ce « mais » est effectivement tout à fait capital, Marx et Engels rappellent qu'aucune classe dominante ne cède le pouvoir volontiers et pacifiquement. Sauf que la légalité n'est plus de son côté. Et on remarque un terme que Marx et Engels commencent à utiliser déjà pour désigner les Versaillais, en référence à la guerre civile américaine, la guerre de sécession, ils disent « c'est une rébellion d'esclavagistes ». Et Marx et Engels vont l'utiliser après dans tous les textes où ils se réfèrent à l'inévitable, l'inéluctable réaction des classes dominantes face à l'avènement précisément d'un pouvoir politique qui peut-être parvient aux commandes par des voies légales. On l'a vu par exemple au Chili, on l'a vu dans d'autres pays d'Amérique latine, mais c'est pour déclencher justement une contre-révolution qui, elle, n'hésite nullement à recourir à la violence contre-révolutionnaire et face à laquelle il s'agit bien sûr de se défendre. Hein. Donc la guerre de sécession américaine, pour Marx, et la guerre civile française, ont des enseignements justement de ce point de vue. Mais en ce qui concerne la stratégie, c'est effectivement l'action politique de masse qui doit être privilégiée. Ce qu'il garde par contre de la Commune, c'est ce que Ludivine a mentionné, je suis d'accord avec elle, c'est-à-dire les caractéristiques nouvelles d'un pouvoir révolutionnaire, en rupture avec l'État bourgeois. Et c'est toujours cet ensemble de questions qui revient dans les expériences justement d'un pouvoir de type radicalement nouveau, même s'il est arrivé par une voie légale ou électorale. J'ai lu par exemple récemment, il y a eu un extraordinaire, maintenant évidemment avec la crise qui existe, ce débat n'est plus d'actualité, mais pendant toutes les premières années du régime de Chavez, de la révolution bolivarienne au Venezuela, il y a eu un extraordinaire mouvement communaliste directement inspiré de l'exemple parisien, car Chavez lui-même s'est appuyé sur les révolutionnaires vénézuéliens des années 70, qui avaient une formation marxiste et qui avaient lu Marx et qui s'inspiraient justement de ces textes sur la commune de Paris. Hein. Donc un effort d'auto-organisation, de coopérative, d'organisation par la base, de réorganisation. Et pourtant, on sait bien que c'est un pouvoir qui est arrivé aux manettes en gagnant des élections tout à fait démocratiques, en tout cas pour les premières d'entre elles. Donc, je pense que c'est l'expérience même des mouvements populaires, hein, c'est l'expérience même des luttes sociales qui nous montre que les questions qui sont posées par la Commune restent d'actualité. Et donc, il y a toujours des leçons à tirer de cette expérience pour nous aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup Statis, merci Ludivine. Je crois que ça fait une belle conclusion. Je remontre à nouveau vos deux livres parce que j'ai pris un immense plaisir à les lire. Il y a beaucoup de livres qui sortent logiquement ces jours-ci sur la commune. Mais donc voilà, si vous devez en acheter deux, achetez cela. Merci encore à vous deux.
Merci beaucoup.